again, the damage, from the looks of things, it is very significant.
C'est sur le marché de Liévin que j'ai rencontré deux membres du POID, Parti ouvrier indépendant et démocratique. Il s'agit de Christian Guffroy et Christophe Van Gierd. Ce petit parti ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle. Il présentera, cela dit, un candidat à l'élection législative prochaine. Il s'agit justement de Christophe. Tous deux ont des arguments de poids contre la guerre, contre l'impérialisme et contre la surmilitarisation du monde. Place à leur combat, place à leurs paroles. Bonjour Christian, Christian Guffroy, vous faites partie du Parti ouvrier indépendant démocratique, POID. On se croise aujourd'hui au marché de Liévin, un mercredi matin où vous êtes régulièrement.
Oui, on vient là tous les mercredis parce qu'il n'y a qu'ici qu'on peut prendre contact avec la population, parce qu'on n'est pas autorisé à parler à la radio ni à la télé, enfin je parle du Parti national. Personne ne connaît notre parti parce qu'on n'est pas du tout médiatisé. On a fait un meeting il n'y a pas longtemps, on était 1500, on a invité la presse, aucun journaliste n'est venu. Donc il n'y a que le marché, nous, pour nous faire connaître et de temps en temps participer à une élection, comme on va présenter ici des candidats à la législative. Voilà pourquoi on est sur le marché.
Il existe depuis combien de temps ce parti, le POID ?
Ah, le parti POID, il existe depuis 6 ans, parce qu'il est issu d'une scission, parce que avant c'était POI, Parti ouvrier indépendant, qui existait depuis 15 ans, et avant c'était le Parti des travailleurs, et avant c'était l'OCI, c'est un vieux parti, disons, qui a beaucoup évolué. Son origine est dans le trotskisme. Et dans le POID, il y a beaucoup de militants qui appartiennent au courant de la 4e internationale. Nous sommes un parti pour le socialisme. Et évidemment, l'international, c'est évident, quoi. Le combat est international parce que les travailleurs du monde entier défendent tous les mêmes intérêts. Ils ont tous le même ennemi, le capitalisme.
Et alors, dans la situation actuelle, c'est très prégnant ce que vous êtes en train de dire là, effectivement. Il y a une solidarité internationale qui réclame la paix contre des intérêts économiques, géopolitiques qui se déchirent là et qui amènent à une guerre terrible. Les Ukrainiens en souffrent beaucoup.
Oui. Ce que je peux constater et dire, c'est que les travailleurs russes y vont prendre plein la gueule, pour être clair, les travailleurs ukrainiens et même nous-mêmes, les travailleurs français de tous les pays de l'Europe aussi, quoi. Nous, ce qu'on explique, c'est qu'on essaye d'aller contre, de dire un peu une autre vérité que ce qui est répandu à la télé en ce moment, le méchant Poutine, les pauvres Ukrainiens, une vision très manichéenne de ce qui se passe en ce moment, qu'il y aurait des bons et puis des méchants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment, le méchant Poutine ne veut pas dire que c'est un gentil, c'est une crapule, oui. Conquérir l'Ukraine, oui. Mais quand on réfléchit, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Si on revient dans l'histoire, il faut revenir à la guerre froide, à la création de l'OTAN, l'URSS qui explose et la Russie devient une puissance impérialiste comme une autre. Et on a l'impérialisme russe qui est en lutte contre l'impérialisme américain, européen, etc. Donc c'est toujours des guerres impérialistes. Et l'étau était en train de se resserrer sur la Russie par le biais de l'extension de l'Union européenne à 27 pays. Parce que les pays de l'Union européenne entrent dans l'OTAN. Donc la Russie se voyait cernée depuis des années de pays qui sont en réalité des bases militaires américaines, quoi. Entre ces pays de l'Union européenne et la Russie, il y a l'Ukraine. L'Ukraine était un peu pro-russe il y a 10 ans, 15 ans, et puis 6 ans ou 7 ans, je crois. Le président Kerensky, non.
Zelensky.
Comment ?
Zelensky.
Je mélange les noms. Ce président a carrément dit « Moi, je veux entrer dans l'OTAN et intégrer l'Union européenne. » Donc, c'était une grave menace pour Poutine. Et puis, comme il est complètement cinglé, ce mec-là, il est prêt à aller à tout. Il envoie ses divisions et puis...
Alors, Vous, le POID, vous avez une position qui est antimilitariste et anti-impérialiste.
Vous liez les deux.
Et comment est-ce que vous expliquez que les conflits armés que connaissait l'Ukraine depuis toutes ces années n'avaient pas le nom de guerre et que maintenant on parle de guerre ?
Pas le nom de guerre, parce que je ne sais pas répondre.
C'est la même chose pour les conflits armés qu'il peut y avoir en Afrique. Je vois sur votre affiche « Troupes françaises hors d'Afrique » parce que le POID défend aussi une désescalade de la violence partout, pas seulement en Ukraine. Là, ici et maintenant, c'est aussi « Troupes russes hors d'Ukraine » mais « Troupes françaises hors d'Afrique » et puis tous les guerres sales finalement menées au nom des peuples, alors qu'en fait, ils en souffrent. Pour vous, comment ça se fait que là, maintenant, on parle de guerre en Ukraine, dans tous les médias, tandis que, bon, il y avait déjà des conflits là-bas, il y a d'autres endroits dans le monde où on pourrait dire c'est la guerre, et on ne les nomme pas comme ça.
Ben, le on.
Dans les médias.
Ouais, les médias.
Dans le roman national, je dirais.
Ouais.
C'est-à-dire, il faut différencier ce qui se passe aux portes de l'Europe. Bon, l'Ukraine, effectivement, c'est pas loin de chez nous. Parce que dès qu'on passe la Méditerranée, effectivement, ça nous concerne beaucoup moins. Pourtant, il y a des milliers de gens qui en meurent. Hein. On arme même certains gouvernements pour bombarder d'autres populations. Hein. Je parle de l'Érythrée, notamment. Si on ne parlait pas de guerre avant avec l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine bombardait les populations du Donbass qui avaient été annexées par la Russie. On ne parle même pas de la Crimée. La Crimée se sortirait purement et simplement de là-bas et on laissait justement les Russes annexer pacifiquement le territoire. Alors, c'était tant que l'Ukraine n'intervenait pas plus avant pour pouvoir faire partie de l'OTAN et rentrer dans l'UE, c'était pas trop dérangeant pour Poutine. En fait, l'Ukraine joue un rôle tampon dans cette histoire, puisque toutes les anciennes républiques soviétiques qui ont repris un peu leur autonomie, aujourd'hui, font partie de l'OTAN. Certaines font partie de l'Union européenne aussi. Mais l'expansion de tout cela aux frontières de la Russie, forcément, ça ne pouvait qu'exacerber les choses. Là, aujourd'hui, Poutine, il défend son impérialisme. C'est un peu ce que disait Christian, je pense, tout à l'heure, parce que je suis arrivé en cours de route.
Et alors vous êtes du POID aussi ?
Oui, et je suis candidat aux législatives.
Hein. Comment vous appelez ?
Christophe Van Lierde. Donc voilà, tout ça, ça part de 1991, traité de Varsovie. Hein, bon, où, logiquement, quand le rideau de fer n'existait plus, l'OTAN aurait dû disparaître naturellement, puisque l'OTAN a été constituée justement contre le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est disparaissant, l'OTAN aurait dû disparaître. Sauf que comme l'OTAN est aussi le bras armé de l'impérialisme américain, et que le capitalisme est toujours de plus en plus gourmand, il n'en a jamais assez, il fallait quand même constituer encore des forces armées sur le territoire européen, mais des forces armées qui étaient menées par l'Amérique.
C'est la question suivante que je voulais vous poser. Là, vous faites un lien direct avec des enjeux économiques. Comment ça se fait que la France, l'Europe, n'est pas en mesure de... pour la France, par exemple, de faire comme à l'époque, Chirac avait refusé de partir pour la guerre en Irak, de suivre les Américains. Pourquoi là, on n'est pas en mesure de prendre ce genre de décision et pourquoi l'Europe n'a pas une délimitation européenne de décisions politiques, géopolitiques? Et pourquoi on est encore... sous les décisions américaines? Pourquoi on suit l'OTAN?
Parce que c'est une alliance.
Parce que l'Union européenne a été créée à l'initiative presque de l'impérialisme américain. Il fallait créer une puissance économique alliée de l'impérialisme américain. Là, nous, on a une vision un peu plus large. Il y a une crise du capitalisme. Il n'arrive plus à trouver des terrains où réaliser la plus-value, comme on dit, hein, on est marxiste. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il faut qu'il bouffe les marchés des concurrents. Donc il faut qu'il bouffe le marché de la Russie. Mais derrière, ce qu'il vise, c'est le marché chinois. Et là, le marché chinois, c'est encore la propriété d'État en Chine. Donc les capitaux américains ne peuvent pas aller faire de la plus-value là-dedans. Donc ici, ils ont réussi à obtenir, avec ce qu'a fait Poutine, ils réussissent à obtenir ce qui n'existait pas encore il y a un mois, c'est que l'Union européenne parle de budget militaire en hausse et de créer une espèce... L'Union européenne s'est ressoudée sur le budget militaire. Biden, ça fait... Et l'autre avant Trump, c'était pareil. Il fallait que tous les pays de l'Union européenne aient un budget militaire qui atteigne 2% du PIB. On était en dessous. Et là, ça fait quelques années que ça grimpe. Les Allemands parlent de doubler leur budget militaire. Le but, c'est d'aider l'impérialisme américain, qui est aussi une armée à payer, à mener sa guerre, qui, lui, c'est la Chine surtout qui vise.
Et pour répondre un peu plus complètement à la question précédente, il ne faut pas oublier que l'Irak, la guerre en Irak, est basée sur un mensonge éhonté des Américains sur un armement de destruction massive. Bon, Chirac n'a pas marché dans la combine parce qu'il a vu clair. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a bien un envahisseur.
L'Ukraine alors, on était déjà en alliance. Comment ça se fait qu'à l'époque, il a pris cette décision politique et que notre gouvernement, nous, ne prend pas ce genre de décision courageuse, décide d'annoncer « nous sommes en guerre ».
Peut-être parce qu'on n'est pas courageux, enfin peut-être parce que le gouvernement n'est pas courageux tout simplement. Parce qu'ils ont choisi leur camp, comme dirait l'autre. Hein. Vaut mieux être avec les Américains que contre, peut-être aujourd'hui. Hein, bon.
Non mais. L'état actuel des choses fait qu'on est.
Si on défend la classe ouvrière, effectivement, on sera plutôt du côté des Chinois, même si. On n'est pas d'accord avec la gouvernance chinoise, mais si on défend les capitalistes, forcément, on sera qu'avec les Américains.
Et alors, du coup, comme on parle de ça, qu'est-ce que vous pensez, vous, des sanctions qui sont appliquées par l'Europe, par les Américains, etc., les sanctions internationales d'économie ? Est-ce que ce n'est pas le peuple russe qui en pâtit le plus, et même les peuples européens, en fait, quand on voit la flambée des prix ?
Ben, la réponse est dans la question, en fait, effectivement. Les oligarques, ils vont toujours avoir de quoi manger, de quoi se déplacer, de quoi aller en vacances, parce qu'ils ont de quoi aussi chez eux, hein, ils ont des belles plages aussi. Hein.
Oui, parce que moi, je ne suis pas experte de tout ça, et je ne sais pas analyser si les sanctions qui ont été prises ont un impact, peuvent avoir un impact sur Poutine, les oligarques, le gouvernement russe.
Les sanctions, si on regarde bien l'histoire, tous les embargos, toutes les sanctions de ce type-là qui ont été prises auparavant contre certains pays, bon, je pense à Cuba notamment, mais il y en a d'autres, hein, la Corée, etc., la Corée du Nord. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ils se font plaisir, en fait. Et comme ils resserrent aussi les rangs du côté du bloc Atlantis, plutôt, ça fait que tout le monde est en rang serré et va vers contre ce qu'on va désigner le mauvais personnage, Poutine, aujourd'hui. Sauf que Poutine, il a été agressé auparavant. Il ne faut pas l'oublier, ça.
Il faut penser à l'histoire du gaz aussi. Le gazoduc qui devait construire, amener le gaz directement à l'Allemagne, le Nord Stream 2. Si l'Allemagne achetait 80% de son gaz à la Russie, elle n'achèterait pas du gaz aux États-Unis.
C'est 80%
Non, 50. Pour l'instant, ouais, c'est 50. Mais avec le gazoduc, ça aurait été beaucoup plus.
Ouais, d'accord.
Et les Américains veulent vendre leur gaz issu de la fracturation hydraulique parce que là-bas, c'est autorisé. Là, ils ont le droit de bousiller le sol. Et donc, les tankers qui amènent le gaz américain... À Marseille, par exemple, ou à Dunkerque, il faut le vendre le gaz. Donc, moins on achète aux Russes, plus on achète aux Américains. Il y a toujours une histoire de commerce dans toutes les guerres. Quoi.
La situation n'est pas nouvelle. Hein. Si on regarde bien, au lendemain de la révolution russe d'octobre 1917, il y avait quand même 12 pays qui étaient en guerre contre le nouveau pays créé, l'Union soviétique. Hein. C'est ce que Lénine appelait à l'époque l'Alliance. Et donc, c'est pas nouveau, je veux dire, il y aura toujours des États impérialistes qui vont défendre leur propre impérialisme, mais en lien aussi avec les autres, parce qu'ils ont des intérêts communs pour pouvoir asseoir leur autorité dans des pays où ils n'ont pas lieu d'être, pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés, avoir de nouvelles main-d'œuvre, etc., à bon marché, bien entendu.
Et c'est pour ça que votre parti, du coup, défend une internationale des travailleurs.
Oui, la quatrième internationale de Trotsky.
Pourquoi pas la cinquième alors ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Parce qu'il n'y a pas encore de... Il n'y a que la quatrième, donc...
Pourquoi en faire une cinquième ?
Elle est en reconstitution.
La quatrième est issue de l'échec de la troisième. Ouais. Pour l'instant, la quatrième, elle n'a pas encore été en échec. Ce n'est pas une réussite encore, elle est en construction. Alors, on va faire une conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation. Il y a 60 pays, il y aura 60 délégations. On ne dit pas qu'on a des gros partis dans tous ces pays. On dit qu'on a des militants qui pensent comme nous la même chose, que le capitalisme est sans solution, qu'il faudra arriver au socialisme, ou alors c'est la destruction par la guerre ou par la crise environnementale, quoi, qui est liée directement au capitalisme.
Bah, vous parliez du gaz de schiste ramené par, j'imagine, par paquebot, à Marseille, par exemple, au Havre. Oui, au niveau écologique, on voit tout de suite le lien.
Quand on dit troupes françaises hors d'Afrique... Bah...
Vous êtes tous les mercredis matins sur le marché de Liévin, à cet endroit-là, à côté de l'espace arc-en-ciel, vous bougez un petit peu.
Quelquefois on va là, quelquefois quand il fait très mauvais qu'il n'y a personne, on va si on a une place là-bas.
Pour avoir des conversations intéressantes et sur l'histoire et sur la géopolitique, j'invite les auditeurs et auditrices à venir vous voir le mercredi matin au marché de Liévin Centre.
Ouais. Je voulais juste parler, on met nos troupes françaises hors d'Afrique, parce que il y a eu le documentaire hier qui est passé à la télé sur la guerre d'Algérie. Bon, ça c'est l'histoire du colonial. Et c'est quoi? C'est que des matières premières. Qu'est-ce qu'on faisait au Mali? C'était pas pour aller défendre les pauvres maliens contre les méchants djihadistes. C'était pour protéger le gisement d'uranium de Areva qui a changé de nom là. Il y a toujours des intérêts économiques.
En plus que s'il y avait des djihadistes, c'est bien parce qu'il y a eu un éclatement au Moyen-Orient orchestré par les Américains. Daesh s'est créé comme ça spontanément. Il a fallu que tous les milices qui étaient employées par les gouvernements compradors de ces pays-là trouvent du boulot puisqu'ils n'avaient plus d'employeurs.
Ces problèmes-là, ils sont terribles, hein. C'est un drame, cette militarisation du monde. Rien que, aussi, si on parle des ventes d'armes, il y a des enjeux derrière qui font qu'il y a des intérêts à déclencher des conflits armés ou à nourrir des conflits armés.
Le volet de l'économie mondiale, c'est la drogue et l'arme, les armements. Quand le capitalisme est un peu coincé, une bonne guerre, ça relance l'économie d'armement. Et les actions d'assaut ont pris 12% en une semaine, et voilà, ils vont s'enrichir. Pour vendre des armes, il faut qu'elles servent de temps en temps. Donc.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Non, on n'a pas de mot de la fin. Qu'est-ce que c'est, un mot de la fin?
Un encouragement.
Eh bien, il faudrait peut-être que la classe ouvrière, en France en tout cas, ait son propre parti qui le représente aujourd'hui. Il faut le construire et on est là pour ça.
Une prochaine date de rendez-vous? Vous avez peut-être un appel à faire pour une mobilisation future? Vous parliez d'un congrès qui va avoir lieu, ce sera en quel mois?
Ah, c'est en octobre 2022, ce sera à Paris. C'est une conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation, avec des délégations d'une cinquantaine de pays. Et c'est très 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 compliqué et ça coûte très cher à organiser parce qu'il y a des militants qui ne sont pas ouvertement militants dans leur pays, ils n'ont pas envie d'aller en tôle. Les visas, c'est quelquefois... Donc c'est compliqué à monter un truc comme ça, mais bon, on y croit et c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu pour nous.
Une interview réalisée le mercredi 16 mars sur le marché de Liévin.